Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Publication dans la revue Civiltà Cattolica de l'entretien que le pape François a eu fin novembre avec les supérieurs généraux Vatican. Dans ce jeu de questions-réponses, le pape aborde différents thèmes et notamment les défis à venir pour l'Église. Messe d'action de grâce pour Saint-Pierre Favre en l'église du Gesù à Rome. Le pape dans son homélie, en présence de nombreux jésuites, est revenu sur leur mission première, annoncer l'Évangile. Retour sur le voyage de Paul VI en Terre Sainte, c'était il y a 50 ans tout juste, un voyage qui était une grande première, nous en parlerons avec l'historien Philippe Levillain. Et puis dans ce magazine, nous reviendrons sur la situation au Liban après un nouvel attentat qui a visé le Hezbollah Beyrouth et sur le résultat de la présidentielle à Madagascar. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Quelques mois après une première interview du pape François publiée dans la Civiltà Cattolica, la revue jésuite dévoile un nouveau long entretien avec le pape. Le directeur de la rédaction, Antonio Spadaro, a transcrit la conversation engagée pendant près de 3 heures entre François et les 120 supérieurs généraux lors d'une rencontre le 29 novembre dernier au Vatican. À l'issue de celle-ci, le pape annonçait que l'année 2015 serait dédiée à la vie consacrée. Fidèle à sa liberté de ton, le pape aborde dans cet entretien les défis à venir pour l'Église, sans éviter de parler de thèmes plus sensibles. Jean-Baptiste Cocagne.
Les religieux doivent être des hommes et des femmes capables d'éveiller le monde, de faire du bruit en annonçant la prophétie du règne de Dieu. En répondant aux questions des supérieurs généraux, le pape a donné sa propre définition de l'identité et de la mission des religieux. « La vie est complexe, faite de grâce et de péché », a ajouté François, et un religieux qui reconnaît qu'il est pécheur ne contredit pas le témoignage qu'il est appelé à donner, mais au contraire, il le renforce. Comme il aime à le répéter, le pape a invité chacun à se déplacer dans les périphéries, une position qui aide à mieux voir et comprendre le monde, selon lui. Ainsi, il invite chacun à se décentrer pour connaître véritablement la vie, le vécu des fidèles. Surtout, François a mis la formation au cœur de son discours, qui doit être orienté vers le peuple de Dieu et fondé sur le spirituel, l'intellectuel, la communauté et l'élan apostolique. Il faut former le cœur, autrement nous formons de petits monstres, et ces petits monstres forment ensuite le peuple de Dieu, cela me donne vraiment la chair de poule, a-t-il dit. L'hypocrisie, fruit du cléricalisme, est aussi un mal à bannir, selon François. Il faut agir en artisan, non en policier, précise-t-il, privilégier un dialogue ouvert et franc sur tous les aspects de la vie. Enfin, François a invité l'Église à ne pas hésiter à faire son autocritique. Nous devons toujours demander pardon et regarder avec beaucoup de honte les échecs apostoliques entraînés par le manque de courage. Dans cette perspective, il a fait l'éloge de l'attitude de son prédécesseur Benoît XVI face aux affaires de pédophilie. Cette attitude doit nous servir d'exemple pour avoir le courage de considérer la formation personnelle comme un défi sérieux en ayant toujours à l'esprit le peuple de Dieu, a-t-il relevé.
Jean-Baptiste Cocagne. L'inquiétude de la recherche de Dieu, voilà ce qui caractérise entre autres le jésuite. Ce vendredi matin, le pape François a célébré en l'église du Gesù, au cœur de Rome, une messe d'action de grâce pour la canonisation de Pierre Favre, cofondateur de la Compagnie de Jésus dont est issu le pape. Le 17 novembre dernier, jour de son anniversaire, il avait étendu à l'église universelle le culte liturgique rendu à ce prêtre jésuite français, ordonnant son inscription au catalogue des saints. Il a donc décidé une canonisation équipollente et déclaré Saint-Pierre Favre sans qu'un miracle ne soit obtenu par son intercession. Une procédure d'exception qu'il utilisait pour la seconde fois après la bienheureuse Angèle de Foligno. Le reportage à l'église du Gesù de Cyprien Viette.
Gesù, figlio del Dio vivente,
abbi pietà di noi.
Nous, les jésuites, nous voulons avoir les mêmes sentiments que le Christ. Cela signifie penser comme lui, aimer comme lui, voir comme lui, marcher comme lui. Le pape invite ses frères à cheminer dans une certaine inquiétude, l'inquiétude de la recherche de Dieu. Ce vendredi matin, le pape François a rappelé ses principes fondateurs de la spiritualité ignatienne en l'église du Gesù, au cœur de Rome, à l'occasion d'une messe d'action de grâce pour la canonisation de Pierre Favre, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Le 17 décembre dernier, jour de son propre anniversaire, François avait étendu à l'Église universelle le culte liturgique rendu à ce prêtre jésuite français, ordonnant son inscription au catalogue des saints. Dans son homélie, le pape, revenant sur la figure du nouveau saint, a dressé le portrait type du jésuite et des qualités qu'il doit avoir pour accomplir sa mission principale, annoncer l'évangile. Pour le père Eugenio Costa, secrétaire à la curie générale des jésuites, cette décision du pape d'élever Pierre Favre au rang de saint remet en lumière l'aventure fraternelle vécue par Ignace de Loyola et ses compagnons.
C'est un très grand jour. D'autant que notre cher compagnon Pierre Favre a été le tout premier compagnon d'Ignace de Loyola et de François Xavier. Ils se sont rencontrés à Paris. Alors les trois ont réussi à vivre ensemble dans cette même chambre pendant 7 ans de leurs études à Paris. Et la conclusion a été la naissance de la Compagnie de Jésus. Alors Pierre Favre, Pierre a été le premier prêtre, ordonné prêtre. Les autres, Ignace et François-Xavier, beaucoup plus tard.
Fierté des jésuites donc, mais aussi fierté des Savoyards. Ils sont quelques dizaines à avoir fait le voyage depuis la Savoie autour de l'évêque du diocèse d'Annecy, Mgr Yves Boivineau. Monique Fillon est particulièrement fière de rendre hommage à l'enfant de Saint-Jean de Sixte, son village autrefois appelé le Villaret.
Je suis surtout là parce que j'ai écrit un livre sur Pierre Favre qui s'appelait Bienheureux Pierre Favre, itinéraire. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec tout un groupe de gens de notre village. On est vraiment des gens du cru qui sommes venus honorer la mémoire de notre cher Pierre Favre.
La décision d'élever Pierre Favre au rang de saint sans passer par le protocole habituel pour une canonisation semble plutôt réjouir le père Eugenio Costa, pour qui cette simplicité correspond bien aux valeurs de la Compagnie de Jésus.
Tout le monde avait une très grande opinion de lui, très grande admiration et tout et tout. Et lui personnellement, le père Bergoglio, notre cher François, était très, très attaché à Pierre Favre. Il sentait que son expérience spirituelle était très proche. Et donc il a voulu d'un coup de pape, si je peux dire, en arriver à cette belle canonisation, sans y donner tout l'éclat qu'habituellement cela comporte. Alors aujourd'hui, on essaye de festoyer un peu.
C'est donc bien la joie qui doit guider l'existence chrétienne. Le pape invite tous les jésuites, mais aussi tous les fidèles, à résister à la tentation d'utiliser des imprécations inquisitoriales de condamnation. Il faut, selon lui, au contraire, user de douceur, de fraternité et d'amour, et se laisser porter par les eaux profondes de Dieu qui donne de la force à l'Église, et non par la seule capacité organisatrice de cette dernière. Avec l'exemple de Pierre Favre, le pape compte bien s'appuyer sur la spiritualité ignatienne pour orienter la suite de son pontificat.
Voilà, c'était un reportage de Cyprien Viette. Le style du pape François attire les foules au Vatican. Selon des chiffres avancés par le Vatican, plus de 6 600 000 personnes ont assisté aux audiences générales, aux célébrations liturgiques et à la prière de l'Angélus le dimanche midi, depuis l'élection de Jorge Maria Bergoglio au trône de Pierre. Chiffre approximatif, évidemment. Pour les seules audiences, le mercredi, plus d'1,5 million de personnes se sont déplacées place Saint-Pierre, soit un peu plus de 50 000 fidèles en moyenne. Pour l'Angélus et les grandes fêtes, ce sont en revanche plus de 2,7 millions de personnes qui se sont pressées place Saint-Pierre ou au sein des basiliques abritant les célébrations du pape. La salle Paul VI, où se déroulaient précédemment les audiences, notamment pendant l'hiver ou par mauvais temps, n'a ainsi jamais servi. Il faut reconnaître que le pape François bénéficie aussi d'un temps clément lors de ses apparitions publiques. Le Liban, de nouveau le théâtre d'un attentat, c'était ce jeudi dans la banlieue sud de Beyrouth. 5 personnes ont perdu la vie, 77 autres ont été blessées. C'est le 4e attentat à viser le Hezbollah en 6 mois. Le Hezbollah qui est engagé aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad en Syrie pour combattre les rebelles et les djihadistes. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel à l'unité au Liban et a exprimé sa préoccupation envers la hausse de la violence ces derniers mois dans le pays. Le Liban paie en effet les conséquences du conflit syrien. La classe politique est en effet divisée entre les pro et les anti-Assad, ce qui fait monter les tensions, notamment entre les sunnites et les chiites. Davide Maggiore a joué à Mgr Mansour Obeka, évêque de Zalé, des Maronites, qui revient sur le sentiment qui domine parmi les Libanais quelques heures après le dernier attentat et qui exprime aussi ses vœux pour l'avenir.
Nous sommes inquiets réellement que ce conflit en Syrie ne se propage au Liban aussi. Tout le monde fait de son mieux, j'espère, pour éviter cela. mais les résultats ne sont pas très promettants. De plus en plus, la situation se détériore. Espérons malgré tout que d'autres références internationales continuent à collaborer avec nous pour éviter ce danger.
Quel est le message que vous, en tant qu'homme d'église, en tant qu'évêque, voulez envoyer à qui nous écoute à travers la Radio Vatican?
J'appelle au courage moral, en la confiance, de nouveau en la providence et en l'avenir. Et disons, ne désespérons pas. Les gens de bonne volonté finiront par trouver un moyen d'entente, j'espère. Et les responsables verront, j'espère, le fruit de leur engagement en faveur de la paix et de l'avenir du pays. Jusqu'à maintenant, on n'est pas démoralisé, on est inquiet, mais pas démoralisé. Continuons à espérer que nous en sortirons.
Pour faire ça, pour obtenir la paix, il faut souligner ces valeurs qui sont communes aux communautés qui habitent le Liban.
Il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de valeurs communes, religieuses, nationales, sociales. C'est ça qui nous aide à maintenir la situation. Il y a de l'extrémisme, mais il y a aussi en contrepartie des attitudes nationales constructives. Nous ne sommes pas au bout de notre effort et nous continuons à fournir cet effort positif, œuvrant pour un avenir meilleur. Nous ne sommes pas désespérés.
Monseigneur Mansour Obeka, évêque de Dzalé des Maronites. Restons au Proche-Orient et souvenons-nous du voyage du pape Paul VI en Terre Sainte. C'était il y a 50 ans, du 4 au 6 janvier 1964. Cette visite est restée dans les mémoires comme un événement majeur à plusieurs titres. Ce premier déplacement d'un pape en avion, premier voyage d'un souverain pontife à l'étranger depuis l'époque des guerres napoléoniennes, fut surtout pour Paul VI l'occasion d'accomplir plusieurs démarches symboliques, notamment vis-à-vis des Juifs et des Églises d'Orient. En plein concile, Paul VI voulait à la fois ramener l'Église vers sa source, le Christ, mais aussi l'élargir au contact d'autres cultures. Dialogue interreligieux et écuménisme furent au cœur de ce voyage historique sur lequel revient l'historien Philippe Levillain.
C'est un acte du souverain pontife, un acte personnel qui éclaire la démarche du concile, c'est-à-dire que Paul VI, tout au long des trois sessions qu'il aura conduites, 63, 64, 65, a essayé de définir auprès des pères du concile ce que devait être sa conception relayé par leurs observations de ce que pouvait faire le Concile en matière d'œcuménisme, puis en matière notamment par rapport à Israël, des positions sur la situation du peuple juif dans l'histoire. Voilà. Donc c'est visiblement, à mon avis, c'est quelque chose qui relève de l'initiative pontificale. Voilà. Au fond, c'est le premier pape qui a fait inaugurer quelque chose qui était très médiatique. À l'époque, on ne reprochait pas au pape d'être médiatique, parce que ça commençait. Les médias étaient contents d'avoir un pape qui soit aussi présent. Les médias ont d'ailleurs parfaitement compris à l'époque la symbolique de ce voyage, qui était très lourdement organisé, très symboliquement organisé. L'arrivée, le départ de Rome, le salut aux autorités locales de l'entrée à Jérusalem, le salut au patriarche arménien, le salut au patriarche de Jérusalem. Enfin, tout a été calculé au petit point, et surtout alors, à la fameuse séance du 5 janvier avec un tête grâce de Constantinople en latin en plus.
Et alors cette fameuse rencontre avec Athénagoras, elle marque quand même une rupture dans le regard catholique sur l'orthodoxie. Est-ce que ce fait de se considérer d'égal à égal avec le patriarche de Constantinople, ça a choqué dans le monde catholique?
Je ne pense pas. C'était plutôt attendu à mon avis. Je pense que le pape, qui avait beaucoup de finesse et une très grande sens de culture, savait qu'on attendait cette réconciliation des églises. Donc il l'a fait des deux côtés. Vous doutez bien que c'est une affaire qui était diplomatiquement très préparée. Je ne pense pas, ça n'a pas choqué. Ça n'a pas choqué du côté catholique, ça n'a pas choqué de l'autre côté. Non, au contraire, je pense que c'était reçu avec le sentiment d'espoir que représentait cette unité de l'Église à travers les dissensions qu'elle avait connues dans l'histoire. Voilà. Donc tout ceci c'est du grand Paul VI, c'est-à-dire que la symbolique chrétienne est exprimée à travers des gestes, des rituels.
Est-ce que cette visite du pape a joué un rôle pacificateur sur la situation de la Terre Sainte?
Dans le moment, mais pas après, parce que c'est une situation agitée qui surtout est presque quotidienne. Il est un fait qu'à partir de la visite du pape, il y a eu des contacts qui ont été pris, il y a eu une espèce d'option de reconnaissance d'Israël. Il y a des contacts très étroits, sous-entendu à cette époque-là. Tous les papes successeurs de Paul VI sauf Jean-Paul Ier. Et on fait le voyage en Israël, quand c'est par Jean-Paul II, Benoît VII, Pape François ira aussi. Ça a été le début d'une façon de reconnaître qu'Israël avait un droit d'existence dans ces coïncidences antagonistes les unes après les autres, qui fait qu'effectivement Israël sur une terre qui lui appartient certainement, qui était quand même labourée par d'autres confessions. Il y a trois terres en Palestine, il y a la Palestine, il y a Jérusalem, et enfin, il y a la Terre Sainte et Israël. Ce sont trois terres superposées. L'Église romaine en Israël, en Palestine, est très bien vue, parce qu'on sait que les efforts de paix sont des efforts constructifs.
Alors justement, si on revient à 1964, quelle avait été la réception du message de Paul VI côté israélien et côté arabe? Comment il a été ressenti?
Elle a été ressentie très bien reçue. Aussi bien du côté des Israéliens que du côté des Palestiniens. De l'époque, ce n'était pas les mêmes, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une position de médiation qui était très bien reçue. Il n'y a pas eu de grande critique, autant que je sache, sur l'opportunité ou la non-opportunité du voyage. C'est-à-dire que le pape, que Paul VI, allumait une lumière extraordinaire, qui est un peu une bougie vacillante, mais enfin bon, à savoir que la papauté doit se rendre compte de ce qu'est la réalité de la Terre Sainte aujourd'hui.
Des propos recueillis par Cyprien Viette. Le décompte est définitif. Eri Rajaonarimampianine a remporté l'élection présidentielle à Madagascar. Il a été élu avec 53,5% des voix face à son rival Robinson Jean-Louis. Cette victoire doit encore être confirmée par la cour en charge d'examiner les recours en annulation déposés par le candidat malheureux. Il y en a plus d'une centaine pour dénoncer des fraudes, des défaillances et des irrégularités. Les différentes missions d'observateurs étrangers, dont celle de l'Union européenne, n'avaient pourtant constaté aucune fraude présumée. Eri Rajaonarimampianine, soutenu par le régime de transition, était le ministre des Finances et du Budget. Jusqu'alors très discret, il était inconnu des Malgaches, comme nous l'explique Hervé Rakuzanani, rédacteur en chef de la radio Don Bosco à Madagascar.
C'est plutôt un technicien, si on veut dire, c'est pas du tout un politicien. Mais comme il était venu à la toute dernière minute. Il s'est présenté comme tout autre candidat. Toujours est-il qu'il était un des bras droits du président de la transition, étant donné qu'il n'y a que deux ou trois ministres tout au long de ces 4-5 années de transition qui sont toujours restés à leur poste.
Son projet, c'est maintenant, c'est relever le pays. C'est ce qu'il attend, en fait, après toute cette période de transition, cette crise qui se ferme avec cette élection.
Effectivement, même les deux candidats pour ce second tour, c'est presque pareil comme programme, comme projet de société. Tous les deux, ils sont condamnés à faire sortir Madagascar de cette crise politico-économique. Donc, c'est presque pareil, tout est question de langage, mais c'est toujours les mêmes objectifs pour les deux.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Le pape a accepté la démission de Mgr Léonard Kassanda Lumembo, jusqu'alors évêque de Louisa en République démocratique du Congo, en vertu du canon 401, paragraphe 1 du Code de droit canon. À sa place a été nommé le père Félicien Mwanama Galumbulula, professeur universitaire et second secrétaire adjoint de la CENCO. Le nouvel évêque est né le 26 octobre 1960 à Tsibala, dans le diocèse de Louisa. Le diocèse est suffragant de l'archidiocèse de Kananga et compte 3 millions d'habitants, dont plus de la moitié sont catholiques. Une dernière nouvelle avant de se quitter. Au cours de l'année 2013, 22 opérateurs pastoraux, en majorité des prêtres, ont été tués dans le monde, soit près du double par rapport à l'année 2012, qui avait enregistré 13 morts. C'est ce que rapporte l'agence Fides. En 2013, donc, 19 prêtres, une religieuse et deux laïcs sont décédés de morts violentes. Selon la répartition par continent, 15 prêtres ont été tués en Amérique, 7 en Colombie, 4 au Mexique, 1 au Brésil, 1 au Venezuela, 1 au Panama et 1 en Haïti. En Afrique, un prêtre a été tué en Tanzanie, une religieuse à Madagascar, une laïque au Nigeria. L'Asie compte 3 morts violentes d'opérateurs pastoraux, 2 prêtres l'un en Inde et l'autre en Syrie, un laïque aux Philippines. En Europe, enfin, un prêtre a été tué en Italie. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.